Le journal est présenté par François Comte.
Madame, monsieur, bonsoir. La chaleur devrait encore s'intensifier sur la région dans les prochains jours. Le mercure devrait continuer à battre des records. L'épisode caniculaire devrait être comparable à celui de l'été 2003. De meilleures rentrées fiscales ont fait le bonheur de la ville de Porrentruy. Les comptes 2025 présentent un bénéfice de 4,6 millions de francs. 2 millions de francs ont été attribués à la réserve de politique budgétaire. La Grande-Bretagne va changer de Premier ministre. Keir Starmer a annoncé sa démission aujourd'hui. Il restera toutefois en poste jusqu'à la désignation de son successeur à la tête du Parti travailliste. Météo, des conditions torrides vont continuer à nous accompagner demain. Les températures se situeront entre 30 et 34 degrés maximum dans l'après-midi. Un temps similaire est prévu durant toute la semaine. La canicule continue de s'accentuer sur l'Europe de l'Ouest. Ce lundi a encore été marqué par de fortes températures sur l'arc jurassien. Un nouveau record de 35,4 degrés a été établi hier à Delémont. Ce plus haut historique pour un mois de juin ne devrait pas tenir bien longtemps et sera vraisemblablement battu dans les prochains jours, selon Frédéric Glasset, prévisionniste chez Météo News.
Ce record va être challengé quasiment chaque jour de cette semaine. Je ne veux pas dire qu'on bat tous les records, parce que tous les records de juin n'ont pas encore été battus à ce stade, ou pas partout, en tout cas en Suisse, mais disons qu'on en prend le chemin. Le record absolu de Delémont, qui est de 38,1, alors qui est quand même relativement vieux, celui-là, qui date du 31 juillet 1983, c'est d'ailleurs un des records de chaleur les plus anciens qu'on ait en Suisse, hein, la plupart datent des années 2000. Sur cet épisode-là, 38,1, ça va être relativement difficile de le battre, mais qui sait, hein, au fil des jours. Au-delà des pics de température, il faut quand même souligner que globalement, si on prend la température moyenne, donc si on prend la température chaque heure divisée par 24, c'est ça aussi le caractère de ces journées torrides, parce que les nuits sont très douces déjà, voire chaudes, et ça se réchauffe très très vite aussi en journée. Donc il ne faut pas prendre que la maximale pour indiquer que les températures sont extrêmes. Ce qui se passe la nuit est aussi prépondérant.
Les finances de Porrentruy ont surfé sur une forte progression des recettes fiscales. Le conseil municipal a présenté aujourd'hui les comptes 2025 qui bouclent sur un bénéfice de 4,6 millions de francs. Une somme de 2 millions a été attribuée à la réserve de politique budgétaire. La ville a reçu 3,5 millions d'impôts de plus par rapport au budget. Le résultat ne permet toutefois pas d'envisager une forte hausse des investissements à l'avenir, selon le conseiller municipal en charge des finances, Alain Telquet.
Pour l'heure, on ne va pas partir en euphorie. On a mis un peu plus de 5 millions maintenant dans notre réserve budgétaire. On a plus de 5 millions dans notre fortune. Donc effectivement, on a un joli coussin devant nous, mais ne faisons pas de folie. Je pense qu'il faut être raisonnable. On peut investir environ 3,5 millions en ville de Porrentruy. On verra si on peut se permettre un peu plus. On va analyser ça autour de la table du conseil, mais on va faire ça de façon très très raisonnable.
Il y a plusieurs indicateurs aussi qui montrent que voilà, ça va dans le bon sens au niveau de la capacité d'autofinancement, notamment la réduction de la dette.
Oui, mais c'est une très bonne nouvelle. Hein, là, on est capable d'autofinancer nos investissements. Hein. Donc on sait qu'on a pas mal d'investissements qui sont en cours, donc c'est une très bonne nouvelle. Puis la réduction de la dette, vous en parlez effectivement, on est parti, l'année passée on avait 65,4 millions d'endettement, on est à 62,1 millions, donc vraiment on est en train de descendre ce montant par habitant qui se porte maintenant à 5168 francs, bien très très bonne nouvelle effectivement.
Alain Telquès répondait à Alexandre Rosset. Les comptes 2025 de Porrentruy seront soumis jeudi soir au Conseil de Ville. Les comptes 2025 figurent au menu de l'Assemblée communale de Failly ce soir. L'exercice présente un bénéfice de 76 354 francs. L'ordre du jour comprend également une adaptation du règlement relatif à la taxe sur les chiens, ainsi que deux nouveaux règlements, celui relatif aux émoluments avec inhumation et celui relatif au statut du personnel. Le serment de Morimont n'a pas encore livrer tous ses secrets. La promesse de délivrer le jurat de l'oligarchie bernoise faite au château de Morimont continue de questionner les historiens. L'exposition de Morimont 1826 à Moutier 2026, mise sur pied pour le salon de la généalogie à Fontenay ce week-end, tente de trouver certaines réponses. Combien de personnes étaient présentes? Où se trouvaient-elles? Et en quelle année exactement? Toutes ces questions ne trouvent pas forcément de réponses. Le commissaire de l'exposition a fait des recherches et a pu découvrir de nouveaux éléments autour du serment de Morimont, Marc Lamblay.
On a trouvé des photographies à Strasbourg d'Auguste qui crée au château de Morimont, des photographies qu'on recherchait en Suisse sans succès, et voilà que des tirages avaient été envoyés en Alsace. Et on a pu en recevoir des copies et voir l'état de la ruine à l'époque, en 1865.
Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, justement, ces photos d'Auguste Quiqueré au château de Morimont?
Déjà, on voit l'état de la ruine à l'époque, donc au début des travaux de déblaiement et de renforcement des murailles. On voit Auguste Quiqueré sur une des photos. Donc, on n'avait aucune photo d'Auguste Quiqueré à Morimont. Et une interrogation qu'on a aussi, parce qu'on voit une pancarte sur un arbre qu'on pourrait prendre peut-être pour un exemplaire primitif de la plaque commémorative qui a été mise. Mais là, à partir des photos, on ne peut pas s'assurer de la chose.
Le Salon international de généalogie à Fontenay se tiendra ce week-end. L'exposition principale de l'événement de Morimont 1826 à Moutier 2026 y sera présentée. Éveiller, réveiller l'esprit des personnes qui résident dans les institutions pour personnes âgées de la région. C'est le but d'un spectacle inspiré de La Cigale et la Fourmi. L'adaptation est proposée par Guylaine Valla et Claude Bouille. Le spectacle dure une quarantaine de minutes et est joué dans une dizaine de homes de la région. Les deux personnes à la retraite aiment susciter des échanges avec les résidents qui vont petit à petit chanter, même réciter quelques mots de la fable de Jean de La Fontaine avec les acteurs. Jean-Michel Probst a assisté à une des premières représentations à Porrentruy.
Je pense que l'important pour une personne âgée, c'est d'avoir, je veux dire déjà, de l'affection, voir qu'elle est respectée, entendue, et puis qu'elle existe. Donc, dans ce spectacle, justement, on les prend avec nous. C'est tellement important, le partage, la communication, le dialogue, et alors, apporter de l'humour et de la joie, et bien sûr des sourires, du bonheur. Et puis, le toucher aussi est important pour eux.
Dites-moi.
Oui?
Que faisiez-vous cet été?
Qu'est-ce que je faisais cet été? Ah, eh bien, comme tout le temps, Madame la Fourmi, je chantais, ne vous déplaise.
Oh, vous chantiez?
Oui, je chantais.
Vous chantiez? Oh ben ça alors!
Leur mémoire ancienne, elle reste. Et c'est ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est de ne pas perdre nos vieux chants. Oui, c'est important pour eux.
J'ai connu d'autres tendres à la ronde.
Et la petite tournée du spectacle La Cigale et la Fourmi se poursuit dans les Haumes du Jura et du Jura bernois jusqu'au 10 juillet. Les projets routiers et ferroviaires du Conseil fédéral font grincer des dents. Le gouvernement a mis en consultation vendredi le paquet Transport 45 avec la liste de ses chantiers prioritaires. L'association Transport et Environnement, l'ATE, a réagi aujourd'hui avec une pétition déposée à la chancellerie fédérale. Le texte est muni de plus de 25 000 signatures. Il demande aux autorités de respecter la votation populaire de 2024 et de renoncer à de nouvelles extensions des autoroutes. Il ne s'agit pas du bon moyen pour adapter les infrastructure à l'augmentation du trafic et de la population, selon le co-président de l'ATE, David Redler.
Alors l'adaptation va se faire, mais c'est précisément en investissant dans des transports publics et dans les projets d'agglomération. C'est tout ça le problème, c'est qu'en fait vous n'adaptez pas en augmentant la capacité. C'est impossible, parce que vous augmentez la capacité, et là du coup vous augmentez le nombre de voitures qui vont se balancer dans les villes, balancer dans les agglomérations, avec tous les problèmes qu'on connaît. L'adaptation aujourd'hui, face à une population qui effectivement augmente, face à des contraintes qui sont de plus en plus marquées en termes de territoire, c'est de gagner de l'espace. Et comment est-ce qu'on gagne de l'espace? C'est en utilisant le moyen le plus efficient. Le moyen le plus efficient, c'est la mobilité active. Évidemment, ça enlève des voitures directement pour les trajets qui sont adaptés et surtout les transports publics. Et ces deux points dans les projets qui ont été mis en consultation, en tout cas pour les agglomérations, ne sont pas là.
Le projet Transport 45 est mis en consultation jusqu'au 9 octobre. Le Premier ministre britannique jette l'éponge. Keir Starmer a annoncé ce matin sa démission. Il était sous pression depuis plusieurs semaines, mais les tensions se sont accrues avec l'élection au Parlement de son principal rival la semaine dernière. Andy Burnham pourrait ainsi devenir le 7e Premier ministre du Royaume-Uni en 10 ans. Notre correspondante à Londres, Marie Billon.
Sa position était devenue intenable selon ses alliés. Keir Starmer a donc décidé de prendre l'agenda politique de la journée en main en milieu de matinée, avant que son principal rival, Andy Burnham, n'arrive à Londres pour être formellement intronisé député après son élection en fin de semaine dernière. Le Premier ministre a dit qu'il avait compris le message de son parti. « Chaque décision que j'ai prise visait à faire passer le pays avant tout », a-t-il dit pour confirmer sa démission. C'est sa personnalité, certains disent son manque de charisme et sa manière de gouverner Bernay qui forment les principaux reproches adressés à Keir Starmer. Face à la montée de l'extrême droite, la gauche s'inquiétait de ne pas arriver à faire une vraie différence dans le quotidien des Britanniques. Devant la crise du coût de la vie, par exemple, les députés travaillistes préfèrent donc qu'une autre personnalité soit installée à Downing Street. Andy Burnham semble être le successeur tout désigné, seule personnalité vraiment populaire du Parti travailliste. Et si aucun autre candidat ne se présente d'ici à l'ouverture des nominations, il pourrait devenir Premier ministre au plus tard le 9 juillet prochain.
Toujours à l'étranger, l'urgence n'a pas été prise en compte dans l'affaire de la jeune Liana en France. Un rapport d'inspection qui a été remis aujourd'hui au Premier ministre Sébastien Lecornu pointe une série de dysfonctionnements de la part du parquet, de la gendarmerie du Gers. L'homme qui est accusé d'avoir violé et tué la jeune Liana le 29 mai dernier avait fait l'objet de plusieurs signalements préalables, dont un pour tentative de viol sur une autre enfant.
18h11,
RFJ, sport.
En football, la Coupe du Monde s'achève prématurément pour Nico Schlotterberg. Le défenseur allemand était victime d'une blessure à la cheville. Antonio Rüdiger devrait prendre la place de titulaire vacante en défense centrale de l'équipe d'Allemagne. Les finalistes de l'édition 2022 de la Coupe du Monde ont l'occasion ce soir de valider leur ticket pour les 16e de finale. L'Argentine se frottera à l'Autriche à 19h et la France défiera l'Irak dès 23h. Un peu plus tard dans la nuit, la Norvège affrontera le Sénégal à 2h alors que la Jordanie et l'Algérie en découdront à 5h demain matin. En cyclisme, les championnats de Suisse sur route arrivent à grands pas. La manifestation se tiendra de jeudi à dimanche à Courtétel, avec Courtétel pour épicentre. Les titres nationaux des courses en ligne seront attribués sur une boucle de 17,05 km, avec 285 mètres de dénivelé positif entre Courtétel et Develier. Les élites hommes qui s'élanceront dimanche la réaliseront 10 fois au total. Le jurassien Arnaud Tendon, qui fera partie du peloton, connaît le parcours par cœur. Le cycliste de l'équipe Van Riesel Roubaix revient sur les différents points clés du tracé.
Première partie plate et ensuite la plus grosse montée du parcours. Une partie qui sera assez dure, tout dépendra du vent. Où il y a une partie sinueuse entre Courtetel et Develier avant qu'on arrive sur la grande route. Je pense que ce sera là dans la bosse où ce sera dur. Quoi.
Cette deuxième partie du parcours, on a commencé par la descente principale depuis le croisement des rangées jusqu'à Develier, une descente qui sera assez rapide.
Ouais, alors la descente première partie est un peu roulant mais qui va quand même vite et ensuite jusque l'entrée de Develier qui est super rapide en peloton. Il y a un virage à droite qui sera assez serré où il y aura une grosse relance à la sortie du virage et une partie de nouveau de 1 minute 30 qui remonte.
Imaginez ce maillot rouge à croix blanche, ça fait rêver aussi de porter ici à Courtetel.
C'est clairement un rêve. Je vais tout faire pour. Il y aura beaucoup de concurrence. Il faudra avoir de la réussite et être dans un bon jour et pourquoi pas.
Arnaud Tendon répondait à Florian Wolfer. Découvrez le tracé en vidéo sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux.